Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous retrouvez comme chaque semaine pour une nouvelle émission des Rendez-vous du Mantois, un moment privilégié de 20 minutes en direct avec un élu du Mantois. Et en cette fin de semaine, je reçois Raphaël Cognier, maire de Mantes-les-Jolies. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
Ensemble ce matin, nous allons échanger sur différents thèmes, les importants travaux en cours dans différents quartiers de Mantes-la-Jolie, la rentrée, qu'elle soit scolaire, culturelle ou encore sportive, et enfin le commerce de la ville qui évolue. Et d'ailleurs, pour commencer, eh bien, parlons de ce commerce, puisqu'aujourd'hui, vous allez participer à un événement important pour la ville, mon centre-ville, à un incroyable commerce. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dispositif?
Ce dispositif, c'est en partenariat avec la marque Le Bon Coin, et c'est un dispositif assez intelligent qui consiste à proposer à des porteurs de projets de tous horizons d'occuper des cellules qui sont vides dans le centre-ville de Mantes-la-Jolie. C'est-à-dire qu'en gros, on identifie les cellules qui sont vides, ou bien elles appartiennent à la ville, ou bien elles appartiennent à des propriétaires privés, on les rassemble, et on dit à des gens, proposez-nous un projet, et nous, si le projet nous plaît, si on pense qu'il est viable économiquement, on va vous attribuer une cellule, et donc ça va remplir un commerce de plus à Mantes-la-Jolie. Donc, on a 30 personnes qui ont déposé un dossier pour ça. On a sélectionné, alors c'est pas moi, mais c'est un jury d'experts qui a sélectionné 15 dossiers. Et à partir d'aujourd'hui et de demain, ces 15 dossiers vont être accompagnés par des banques, par des associations de financement, etc. pour les aider à faire émerger. Ensuite, il y aura un jury pour sélectionner sur ces 15 les meilleurs, avec moi, mon adjointe au commerce, la marque Le Bon Coin, etc. Et pour les gagnants, il y aura un prix, c'est-à-dire ou bien une franchise de loyer, ou bien une prime à l'installation. On l'a fait il y a 2 ans. On a 3 magasins qui ont ouvert grâce à ça. Et donc là, l'idée, c'est de multiplier le dispositif pour essayer d'avoir, j'espère, 5 ou 6 ouvertures supplémentaires dans le centre-ville.
Là, aujourd'hui, c'est ce que vous souhaitez, en ouvrir 5. Quand vous parlez de cellules, vous parlez de,
pour commerce, les auditeurs, de boutique. Commerce, pardon. Oui, je dis cellule commerciale, mais en fait, je veux dire boutique, exactement.
Là, vous espérez en recruter, on va dire, en quelque sorte, combien?
Oh, on espère 5 ou 6, parce que sur les 30, on a sélectionné les 15 qui nous paraissaient les plus pertinents. Et sur les 15, j'espère qu'à la fin, 3, 4, 5, 6 iront au bout. Je peux pas vous le dire parce que les sélections, c'est aujourd'hui et demain. Et je présiderai le concours final demain matin.
Pour donner une idée, est-ce que 30 projets, c'est quelque chose de satisfaisant?
C'est énorme. On fait ce concours, c'est la deuxième fois. La première fois, on avait une dizaine de projets. Et la marque Le Bon Coin nous dit qu'elle n'a jamais eu autant de dossiers dans un concours pour un centre-ville, puisqu'elle a fait ce concours dans d'autres villes. Donc on est très content et on espère qu'on aura beaucoup de projets innovants, rigolo et puis surtout créatif.
Vous avez déjà une idée des types de commerces que vous aimeriez sélectionner?
Oui, mais c'est trop tôt pour en parler.
Bon, alors vous reviendrez, on en reparlera
avec
la prochaine
plaisir.
Fois. D'ailleurs, l'opération Achetons Mantais va être prolongée?
Oui, en fait, Achetons Mantais, c'est une campagne qui consiste à soutenir nos commerçants du centre-ville et puis d'ailleurs de toute la ville. On l'a lancée à la fin du mois d'août pour le mois de septembre. On va la prolonger parce qu'il faut aider nos commerces. Vous savez, le commerce, je dis souvent qu'il y a des choses qui dépendent de moi et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est la croissance économique, le pouvoir d'achat, etc. Ça, c'est nos grands élus nationaux qui s'en occupent. Moi, par contre, mon boulot, c'est de faire en sorte que nos espaces publics soient agréables, que nos commerces soient soutenus. Et si on peut augmenter un peu la fréquentation dans le centre-ville de Mantes pour aider nos commerces, évidemment qu'il faut qu'on le fasse. Et donc, Achetons Mantais, qui est une campagne un peu phare, en plus une campagne que j'aime bien parce que elle développe le sentiment d'appartenance à Mantes-la-Jolie. Ça marche bien et donc on va la prolonger.
Est-ce que le commerce est impacté par les travaux dont nous allons parler, qui sont dans le centre-ville?
Alors, l'autre jour, j'ai entendu Pierre Bédier à votre micro dire « le centre-ville de Mantes n'est plus attractif ». Je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain du jour où son fils spirituel a été condamné à 2 ans de prison dans l'affaire des marchés du Val-Fouré. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quoi un centre-ville attractif? C'est un centre-ville qui correspond à son époque. On fait pas du commerce comme on en faisait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on garait nos voitures en bas des commerces et on repartait. Ce qu'on essaye de faire dans le centre-ville de Mantes, place Saint-Maclou, place du marché au blé, c'est d'essayer d'organiser l'espace public pour que les gens puissent marcher, se déplacer, en fauteuil roulant, en poussette, les familles, pour les faire venir dans le centre-ville. Ça passe par une phase où il y a des travaux importants. Et j'aurais très bien pu dire, comme je veux être élu maire de Mantes-la-Jolie, je ne souhaite pas qu'il y ait des travaux parce que comme ça, il y aura de gêne pour personne. Mais c'est pas ça le boulot d'un maire. Le boulot d'un maire, c'est pas de rester assis dans son bureau et d'attendre que ça passe. Donc on a fait le choix avec mon équipe municipale de mener des travaux très importants. Évidemment que ça impacte le commerce. Évidemment que c'est difficile pour les commerçants. Quand vous avez un bar avec une terrasse qui fait 150 mètres carrés et que du jour au lendemain, on vous explique que votre terrasse, elle va faire 20 mètres carrés parce qu'il y a des travaux en cours, c'est évident que ça a un impact sur votre activité. Je ne peux pas faire en sorte que les travaux soient faits en 30 secondes. Donc ce qu'on a fait, c'est que 1, on essaie de tenir nos plannings pour les travaux soient livrés à temps. Et 2, on a mis en place un fonds d'indemnisation pour les commerçants pour que ceux qui ont une perte de chiffre d'affaires puissent être indemnisés. Et ça marche pas mal. On a deux commerçants seulement qui ont déposé un dossier. Je dis à tous les autres, faites-le si vous ne l'avez pas encore fait. Et mon boulot à moi, c'est de faire en sorte que les travaux soient livrés, parce que quand ça va être fini, on va enfin avoir des places de centre-ville sur lesquelles il n'y a pas eu de travaux depuis près de 40 ans, ou allez, on va dire, j'exagère un peu, 25 ans, qui seront représentatifs de ce que je souhaite à Mende, c'est-à-dire de la convivialité, de l'écologie, des arbres et un espace public dans lequel c'est agréable de se déplacer.
Vu que vous avez déjà commencé à parler un peu des travaux, on va en profiter en faisant un peu le point, disons, pas tout à fait quartier par quartier, mais presque, et on va commencer justement par cette place Saint-Maclou et la place du marché au blé, où on en est actuellement.
Alors, sur la place Saint-Maclou, on est en train de terminer les travaux, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre les pavés qui finiront les travaux, et les travaux seront livrés, j'espère, vers le 15 novembre, normalement. Donc là, la place, elle sera livrée complètement. Place du marché au blé, les travaux seront normalement livrés au début du mois de juillet prochain, ce qui ne veut pas dire que tous les travaux seront terminés, ils seront terminés normalement sur la place, mais il nous restera quelques travaux à faire du côté de la rue de Chanzy, etc. Donc, on a fait le plus dur. Les Mentais vont voir ce que se donnent ces places. Et surtout, je dis à tout le monde, pendant les travaux, les commerces continuent à être là, donc venez les soutenir. Mais on ne fait pas des travaux de cette ampleur sans nuisance. Surtout qu'en plus, on fait des travaux très importants, parce qu'il y a ce que les gens voient en surface. Mais on a aussi eu des fouilles archéologiques, on a eu des changements de réseau d'eau, on a eu des changements de réseau électrique. Donc on fait tous les travaux en même temps pour être certain qu'à la fin, on ne soit, pendant 20 ans, on ne soit plus obligé d'intervenir sur ces places.
Au niveau de la place Paulbert, à Gassicourt, cette fois-ci, on en est où ?
Ah bah on avance bien, les travaux seront livrés dans quelques semaines, il nous reste à installer l'aire de jeu pour enfants, etc. Ça aussi, c'était une place où il y avait quasiment de la terre battue et du gravier, qu'on a complètement transformé pour que les arbres qui sont dessus puissent vivre beaucoup mieux, pour qu'elles soient beaucoup plus à l'ombre et pour qu'elles soient surtout beaucoup plus conviviales. Donc c'était une place qui n'avait aucun usage et qu'on a transformé, qu'on est en train de transformer en une place vraiment agréable. C'est aussi ça qu'on veut faire, c'est-à-dire faire en sorte que devant nos mairies, devant nos emplacements, nos équipements publics, on ait des places sur lesquelles on puisse venir, si on est un senior, s'asseoir tranquillement à l'ombre, si on est un enfant, jouer sur l'aire de jeu et jouer à la pétanque, etc. Donc on essaye de faire de nos espaces publics des lieux conviviaux sur lesquels on a envie de se promener.
Au niveau du square Brieucelles, on a pu voir l'aire de jeu qui a été refaite lors du village des associations. Qu'est-ce qu'il reste à faire ?
Planter les arbres. On a refait complètement le square. On a multiplié par deux la taille de l'aire de jeu, parce que c'est une aire de jeu qui fonctionne très bien. On a énormément d'enfants qui jouent, qui viennent jouer là. Ce qui nous reste à faire et qu'on pouvait pas faire en printemps ni à l'été, c'est les plantations d'arbres, puisque les arbres, ça se plante au mois d'octobre ou au mois de novembre. Et donc là, on est en train de faire les travaux pour planter des arbres en plus, pour que ce square soit un vrai square de centre-ville, c'est-à-dire ombragé, et que l'été, on puisse venir quand il fait chaud pour s'y promener tranquillement.
Les travaux ne sont d'ailleurs pas que dans les rues de Mantes-la-Jolie, mais aussi dans la mairie. J'ai eu l'occasion de voir le hall en plein travaux cette semaine. C'est assez impressionnant.
Oui, c'est assez impressionnant parce que là aussi, vous avez deux façons de voir les choses. Je ne prétends pas avoir toujours les bonnes solutions, mais j'essaye d'avoir une grille pour prendre mes décisions de la façon la plus objective possible. Ou bien vous faites 4 ans de travaux en site occupé et en fait, vous dérangez les gens qui viennent à la mairie, les gens qui travaillent, etc. Ou bien vous faites comme j'ai décidé qu'on fasse, c'est-à-dire un peu radical, vous fermez l'hôtel de ville pendant 12 à 14 mois pour pouvoir faire les travaux tranquillement. Dans cet hôtel de ville, il n'y a pas eu un travaux depuis 50 ans. Donc le bâtiment, il est comme il était il y a 50 ans. Vous doutez bien qu'il y a 50 ans, on ne construisait pas comme maintenant. Les fenêtres sont toutes à changer. L'isolation thermique du bâtiment, elle est déplorable. Le système de sécurité incendie était défectueux. On avait rajouté des réseaux sur des réseaux, etc. Donc j'ai décidé de faire reset et de faire 3,5 millions d'euros de travaux dans cet hôtel de ville, avec deux objectifs. Un objectif d'économie, il faut qu'on économise du gaz, de l'électricité, qu'on chauffe de façon beaucoup plus efficace, et ça, ce n'est possible que si vous changez l'intégralité des fenêtres et que vous faites de l'isolation par l'extérieur. Et deux, qu'on travaille et qu'on accueille les gens dans de bien meilleures conditions. On avait un hall d'entrée énorme et des collaborateurs qui travaillaient dans des conditions déplorables dans des tout petits bureaux. On va essayer de changer tout ça pour faire en sorte que le Mentais ou le non-Mentais, parce que je rappelle qu'on a une personne sur deux qui vient à l'hôtel de ville de Mende qui n'est pas Mentais, qui vient à l'hôtel de ville, puisse être accueilli dans les meilleures conditions possibles et faire enfin rentrer ce bâtiment dans la modernité. Je le redis, on ne fait pas des travaux pour faire des travaux. L'hôtel de ville, c'est la maison de tout le monde. Donc, quand on y va, il faut qu'on soit fier. On a un bâtiment qui est comme il est. Il ne s'agit pas de le modifier structurellement. D'ailleurs, c'est un bâtiment qui est classé, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut à l'intérieur. Par contre, il faut que nos collaborateurs travaillent dans de meilleures conditions et qu'on accueille mieux le public. Pour tout ça, il faut passer par une phase compliquée et des coûts importants. Mon boulot, c'est aussi d'aller chercher des subventions pour faire en sorte que ces travaux nous coûtent le moins cher possible. Et c'est ce qu'on a fait sur ces travaux-là.
Pour les habitants, mais aussi, comme vous le disiez, pour les extérieurs qui viennent aussi à l'hôtel de ville, est-ce que c'est simple pour continuer à tout ce qu'ils viennent faire, que ce soit l'état civil ou autre?
C'est plus compliqué parce que, évidemment, quand vous fermez certains services de l'hôtel de ville, ça se répercute sur les habitants. Mais comme on essaye d'être un peu malin, on a renforcé les équipes à la mairie de Gassicourt et à la mairie du Val-Fouré pour faire en sorte qu'une partie du flux soit absorbée par ces mairies. Pour les autres, on continue à accueillir du public de façon un peu dégradée, évidemment, mais on peut continuer à venir faire ces démarches à l'hôtel de ville. Il faut juste rentrer par l'entrée des mariages et pas par l'entrée principale. Et pendant ce temps-là, oui, le flux continue. Donc oui, il y a des nuisances, mais c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que c'est le moment où on est obligé de faire quelques sacrifices pour que demain, ce soit mieux.
Quand est-ce que seront finis ces travaux-là?
Ils seront terminés normalement au 1er septembre de l'année prochaine. Ça veut dire qu'il nous reste 11 mois de travaux à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là-dessus, nos plannings sont tenus. C'est des travaux compliqués parce qu'il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de choses à faire. Et que dans tous les travaux, les gens qui font de la rénovation chez eux savent qu'il y a toujours des surprises et qu'elles sont rarement bonnes mais mauvaises. Mais pour l'instant, les services de la ville me disent que les plannings seront tenus.
Et des travaux, il y en a eu également cet été, mais cette fois-ci à l'abri des élèves, et c'était dans les écoles.
Oui, c'était dans les écoles, et c'est des travaux qui sont très compliqués, les travaux dans les écoles, parce que vous les faites en temps limité. Donc quand vous refaites un coup de peinture, en deux mois, vous avez largement le temps. Mais quand vous faites des travaux très importants, par exemple que vous refaites complètement une cour pour la transformer en cour oasis, ou quand vous avez des travaux de sécurité importants, vous avez un tic-tac qui se met en place, qui commence le jour de la sortie des classes, et il faut que tout soit livré pour la rentrée. Et bien cette année, nos services et les entreprises de la ville, et je tiens à leur rendre hommage, ont livré tous les travaux à deux jours de la rentrée, tout était nickel. J'ai fait un tour des écoles une semaine avant la rentrée scolaire pour mettre un petit coup de pression à tout le monde. On m'a dit ce sera fait monsieur le maire, ce sera tenu, et ça l'était. Et on a fait des travaux très importants. Il y a des endroits où on a juste rafraîchi, mais il y a des endroits où on a changé intégralement certaines fenêtres qui menaçaient de s'effondrer ou qui étaient très mal isolées. Il y a des endroits où on a refait complètement une cour d'école qui était une cour en goudron pour la refaire, la transformer en cour oasis et faire 500 000 euros de travaux dans certaines cours. Donc si vous voulez, il y a des moments où, quand vous êtes maire, vous êtes un peu stressé en vous disant « il faut que tout ça au 1er septembre ce soit fait ». Eh bien ça a été fait, c'est bien la preuve que nos services et nos élus disposent d'une expertise et que quand ils disent « ce sera fait », ben c'est que c'est fait.
Quand vous parlez de gros travaux pour une cour oasis, qu'est-ce que c'est une cour oasis?
Une cour oasis, c'est en fait quand vous transformez une cour qui est en goudron, comme toutes les cours d'école qu'on connaît, qui sont des vieilles cours en fait, qui ont été faites dans les années 60, en une cour où vous avez des arbustes, des arbres, et en fait, vous faites en sorte qu'il fasse beaucoup moins chaud dans les cours d'école au moment de l'été. Tout le monde l'a oublié parce que cet été, il n'a pas fait très chaud, mais il y a 2-3 ans, quand il a fait très chaud dans nos villes, là où il fait, un des endroits où il fait le plus chaud, c'est dans les cours d'école, parce que quand vous avez une cour d'école en goudron de 500 mètres carrés, le soleil tape très fort, et dans certaines de nos cours, il faisait 34, 35, 38 degrés. Et donc, petit à petit, nous transformons toutes nos cours d'école en cours oasis. L'oasis, ça fait penser à la fraîcheur dans le désert. Et là, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que on plante des arbres, on mette des arbustes et on lutte contre ce qu'on appelle dans un jargon technique les îlots de chaleur pour que nos enfants puissent travailler dans les meilleures conditions. On en fait deux par an, c'est des travaux très importants. Et on a fait aussi une cour jardin en centre-ville parce que là, on pouvait pas faire de cour oasis. Donc, c'est des travaux qui coûtent cher, mais qui sont nécessaires au bien-être de nos enfants. Et c'est pour ça qu'on investit massivement dedans.
Au niveau des écoles, justement, il y a eu pas mal de nouveautés aussi dans les projets éducatifs.
Oui, on continue la cité éducative, on essaye de la faire monter en puissance. La cité éducative, c'est un dispositif de l'État qui nous permet d'avoir plus d'argent pour les actions éducatives à Mantes-la-Jolie. C'est de l'argent que je suis allé chercher avec mes dents, entre guillemets, parce que je crois beaucoup aux questions d'éducation et je m'investis beaucoup sur ces sujets. Aujourd'hui à Mantes, ce dont on a besoin, c'est évidemment que les enfants aillent à l'école, etc., mais aussi de leur ouvrir des perspectives. C'est pour ça qu'on fait tout un travail sur des parcours scientifiques, pour que on renforce le niveau de science de nos élèves. C'est pour ça que il y a quelques années, on a lancé et on continue le plan d'apprentissage des échecs à l'école. C'est pas les échecs parce que le maire est passionné d'échecs, c'est parce que les échecs, ça permet de travailler d'autres compétences comme la concentration, l'anticipation, la géométrie, etc. Et on fait monter en puissance ces dispositifs parce que je veux que chaque Mantais, quel que soit son âge, quel que soit son quartier, quelle que soit sa famille, ait à l'école le plus possible la même possibilité de réussir. L'école, le fait que les enfants et les jeunes soient plus diplômés, c'est ce qui nous permettra de sortir de nos difficultés actuelles. Et c'est pour ça que je mets là-dessus beaucoup de moyens, de temps et d'énergie, parce que je considère que c'est stratégique.
Il y a aussi la sécurisation à l'abord des écoles avec une entreprise privée.
Oui, en fait, on a décidé de mettre devant chaque école élémentaire quelqu'un en gilet jaune pour aider à traverser le matin et le soir. On a malheureusement quelques parents d'élèves ou quelques habitants qui se comportent très mal autour de nos écoles, qui se gardent n'importe comment. Ça peut avoir des incidences sur la sécurité des enfants. Et donc, on a renforcé ces dispositifs pour faire en sorte qu'on vienne à l'école en toute sécurité le plus possible.
Qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée sportive. Et il y a de quoi s'entraîner avec, à Mantes-la-Jolie avec l'Académie des Sports et Mantesport. Qu'est-ce que c'est exactement?
L'Académie des Sports, c'est un dispositif qu'on a lancé en septembre pour que la ville puisse permettre au plus grand nombre d'accéder à une pratique sportive. Vous étiez au forum des associations, vous avez vu qu'à Mantes-la-Jolie, en termes d'offres sportives,
il y avait de quoi faire.
Donc ici, on peut faire du hockey sur glace, du badminton, du ping-pong ou ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut aussi, c'est faire en sorte que la pratique sportive soit ouverte à tous. Et l'Académie des Sports, c'est quelque chose qui nous a permis, dans nos infrastructures municipales, d'ouvrir des créneaux supplémentaires pour des gens qui étaient éloignés du sport, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et par exemple, dans la salle Abignaré, qui est au Val-Fouré, vous avez en même temps des cours pour les petits enfants, les très petits, 2-3 ans, qui viennent parfois avec leurs parents. Et vous avez aussi des cours pour les seniors. Parce que le sport, c'est bon à tous les âges de la vie, que vous soyez jeune ou moins jeune. Et de même que j'ai dit que sur l'éducation, c'était important d'aider nos habitants, sur le sport, c'est le cas aussi. Une pratique sportive, c'est scientifiquement démontré, ça aide à tous les âges de la vie. Il y a des gens qui font du sport naturellement et qui n'ont pas besoin de la ville. Et puis il y a des gens, si on ne monte pas des dispositifs, ils ne vont pas venir et on espère qu'en venant, ils vont y prendre goût et qu'ils vont continuer.
Une autre rentrée a été lancée, cette fois-ci c'est la saison culturelle.
Oui, c'est la saison culturelle parce que avec mon adjointe à la culture, depuis 2 ans, on a radicalement changé la façon dont on percevait la culture à Mantes-la-Jolie. Donc ce soir, c'est la rentrée culturelle à l'Espace Brassens, c'est le premier spectacle de l'année. C'est l'humoriste Sparrow qui vient faire un one-man show. On est d'ailleurs à guichet fermé ce soir à l'Espace Brassens, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais ce que je souhaite sur la culture, c'est 2 choses. Je veux un des événements phares. Donc la rentrée culturelle en fait partie. Sparrow est par exemple un humoriste nationalement connu. La fête de la musique, l'année dernière, on a fait 7 ou 8 000 personnes. Donc ça, c'est les très gros événements qui sont représentatifs du fait qu'on est une ville centre et une ville dans laquelle c'est chez nous que ça se passe. Et puis, vous avez ce que j'appelle la plus petite culture, mais qui est au moins si importante, c'est-à-dire c'est l'accès à la culture pour tous. Et donc, on a en même temps des dates de gros événements et en même temps, dans toutes nos structures culturelles, que ce soit aux ateliers Chopin, à l'Espace Brassens ou au centre Abel-Lovray en centre-ville, on veut favoriser l'accès à la culture proche de chez les gens et à des tarifs raisonnables. Parce qu'on pense que si les gens prennent l'habitude d'avoir des activités culturelles dès le plus jeune âge, quelle que soit l'activité, eh ben, plus tard, ils consommeront de la culture et ça fera de nous, collectivement, des gens plus cultivés et plus intelligents. Donc, c'est là-dessus que je travaille. Et franchement, je suis assez content des résultats parce que en 2 ans, on a musclé notre politique culturelle de façon très importante et les résultats sont là. On a beaucoup plus de gens qui viennent dans nos structures culturelles. Et j'ajoute un mot en termes de culture auquel je tiens beaucoup, c'est l'exigence. Je souhaite que notre culture à Mantes-la-Jolie soit exigeante pour élever tout le monde et découvrir de nouvelles choses. Et on est en train d'y parvenir, donc c'est une excellente nouvelle.
Pour finir notre émission, la semaine prochaine démarre le mois d'octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein, pour lequel Mantes-la-Jolie organise de nombreux événements.
Oui, le cancer du sein, c'est un cancer qui touche beaucoup de femmes. Donc on travaille avec l'association Octobre Rose, enfin avec le label entre guillemets Octobre Rose, avec 2 idées. Permettre au maximum de femmes de se faire dépister et puis en même temps dédramatiser cet enjeu parce qu'un cancer du sein, plus tôt il est détecté, mieux il est traité. Et donc c'est aussi le rôle de la ville en matière de santé de faire en sorte qu'un maximum de femmes puissent aller vers les endroits où la détection se fait le mieux. Donc ça, ce sera au mois d'octobre.
Et la nouvelle édition de la Médiévale de Mantes qui revient bientôt.
22-23 novembre, l'ancienne foire aux oignons devenue Médiévale de Mantes. On n'oublie pas notre histoire à Mantes, on a cette foire aux oignons qui a 600 ou 700 ans d'histoire. Et en même temps, on essaye de l'adapter pour faire en sorte qu'elle corresponde à notre époque. Cette année, elle va être plus longue puisqu'elle va commencer la veille. Et j'en dirai sûrement quand vous me réinviterez quelques mois en novembre. Mais là aussi, on veut allier l'expérience historique avec le fait que ce soit ludique. L'année dernière, on a eu énormément de monde qui est venu. On a eu aussi une météo magnifique. J'espère que ce sera la même chose pour qu'un maximum de gens puissent redécouvrir le centre-ville sous un visage complètement médiéval.
Et ce sera le mot de la fin. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
J'en profite pour remercier la technique de BPM sans qui cette émission en direct ne serait possible. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission en podcast ainsi que les précédentes sur notre site internet bpmlaradio.com. Très bonne journée à tous sur BPM.
Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.